chère qui déchâne au bémitzvotat, metzivanu le adnik nerechanuka. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, sheasa nisim lavotenu, bayamim ha'el bazeman hazeh.
Ces lumières que nous allumons sont pour nous rappeler les miracles, les prodiges, les hauts faits que tu as réalisés, Seigneur, pendant cette période. Et ces lumières que nous allumons sont consacrées. Nous n'avons pas le droit de les utiliser pour un usage profane, mais uniquement pour les regarder et nous rappeler ta lumière divine. Et voilà. Pour le caractère universel, nous serions très honorés si le Père Michel pouvait également allumer la deuxième. Voilà, c'est la communauté juive et la communauté chrétienne qui fraternisent. Et on va chanter même un chant qui s'appelle Maot Sour. Voilà.
Maot Sour Yeshua Ti, Lechana Elishabea, Ti Kod Betefilati, Veshanto Danezabea, Leheta Kinemat Bea, Mitzaram Nabea, Azegmor Beshir Mizmor, Hanukat Amizbea, Azegmor Beshir Mizmor, Hanukat Amizbea.
Le chant traditionnel, Maot Sour, c'est-à-dire une louange à notre rocher de salut, à l'Éternel. Voilà. On se souhaite Chag Sameach, une bonne fête, Chanukah Sameach. Remarque, c'est que d'habitude, on vous remet des documents. Il y a de la place, ne restez pas debout. Hein. Ah! Ah bon, d'accord. D'habitude, je vous remets des documents, mais là, j'ai eu un impératif qui m'a pris en fait toute la journée, et je pensais arriver plus tôt, tout en sachant que ce livre, enfin, le récit de Samson, ou Samson, selon la prononciation, ou Shimshon en hébreu, se trouve dans le livre des juges, et donc je donnerai les références, et vous pourrez le retrouver, mais malheureusement, j'ai pas eu le temps, je suis arrivé trop juste pour préparer le document. Alors, parler de Samson, ou Samson, est souvent associé à une figure féminine, Samson et Dalila. Il y a eu plusieurs, d'ailleurs, films ou dessins animés qui ont représenté ce récit. Mais avant de parler de Samson, je voudrais déjà parler du livre général qui s'appelle le livre des juges, en hébreu le livre des Shoftim, pluriel de Shofet, un juge, puisque c'est dans ce livre qui se trouve dans la deuxième partie du Tanakh, de la Bible hébraïque, le livre des Nevi'im, que se trouve le livre des juges. Donc je voudrais d'abord présenter ce livre et le situer dans la chronologie des livres bibliques. Alors, si le livre de Josué, qui inaugure le livre des prophètes, décrit la conquête du pays de Canaan et l'installation des Hébreux dans ce pays, celui des juges, donc le livre des juges, présente les débuts de la vie de la nation israélite sur la terre promise, jusqu'à l'instauration de la royauté avec Saül et David, avec une intronisation qui sera faite par le prophète Samuel, qui aura l'honneur d'avoir son propre livre, le livre de Samuel, qui suit le livre des juges. Alors, selon le calendrier adopté par les spécialistes, la conquête de Canaan, pour situer un petit peu dans le temps, se situerait au XIIIe siècle avant l'ère chrétienne et la fin des juges au Xe siècle avant l'ère chrétienne. Alors, tout de suite, une remarque historique et archéologique. D'après les archéologues et les historiens, il n'y aurait pas eu de conquête de Canaan, mais plutôt un déplacement de population et une sorte d'acculturation avec les autochtones, les Cananéens. Et on pourrait toujours se poser la question pourquoi la tradition a opté plutôt pour une conquête. Est-ce que c'est un fait ou est-ce que c'est une manière de raconter des événements qui auraient été peut-être moins militaires et moins violents que ceux qui sont présentés. Je vous présente en tout cas la thèse des archéologues et des historiens, mais nous resterons toujours dans la cohérence du texte biblique. Alors, la période des juges, des Shoftim, se veut, par les rédacteurs et les compilateurs de la Bible, donc la continuation chronologique de la Torah de Moïse, le Pentateuch, hein, qui s'achève avec la mort de Moïse, et du livre de Josué, le disciple de Moïse qui prendra la succession et qui va mener, donc, selon le livre de Josué, la conquête de Canaan. Mais il y a une différence majeure entre ces deux livres, le livre du Pentateuch, surtout à partir de l'Exode, et le livre de Josué par rapport au livre des juges. Cette différence, c'est que Moïse et Josué assurent une gouvernance qu'on pourrait dire forte. Ils guident le peuple sous l'inspiration de Dieu. Ils vont unifier les 12 tribus, c'est-à-dire issus des 12 fils de Jacob et de ses différentes épouses. Ils enseignent au peuple et ils vilipendent éventuellement ce peuple pour ses dérapages religieux, moraux, et rien de tel dans le livre des juges. Le début du livre, d'ailleurs, nous offre l'atmosphère générale de sa rédaction. Et le texte nous dit, donc au chapitre 2, donc Juges chapitre 2, versets 7 à 11, que le peuple d'Israël servit le Seigneur tous les jours de Josué et à l'époque des anciens, c'est-à-dire ceux qui ont succédé à Josué, et donc ces juges qui sont venus après eux, et se leva une nouvelle génération qui ne connaissait pas ou qui ne connaissait plus l'Éternel. Ça nous rappelle un petit peu au début du récit de l'Exode un nouveau pharaon qui ne connaissait plus Joseph. Et les enfants d'Israël firent ce qui est mal, et hara be'aine Adonai, ils firent le mal aux yeux de l'Éternel. Alors ce mal qui est mentionné, c'est principalement l'idolâtrie. Cette idolâtrie qui fonctionne comme une séduction du peuple d'Israël et pour laquelle, à plusieurs reprises, Moïse avait mis en garde la génération qui allait entrer dans le peuple d'Israël. N'oubliez pas l'alliance de Dieu, n'oubliez pas l'alliance du Sinaï, restez fidèles à Dieu. Et à la mort de Josué et des anciens, qui représentaient encore cette autorité et cette mémoire vive de la sortie d'Égypte et de la traversée du désert. On pourrait dire que Josué, c'est un rescapé de la première génération, hein, avec Caleb, puisque ce sont les deux seuls explorateurs qui ont survécu et qui sortaient d'Égypte. Donc ils ont connu, dans la cohérence du texte biblique, les miracles et les hauts faits de l'Éternel. Hein. Mais une fois que cette génération disparaît, une nouvelle génération se lève et elle commet le mal aux yeux de Dieu. Donc, dès le début du livre des juges, les rédacteurs nous mettent en garde, sans doute des prêtres qui ont composé ce texte. C'est des textes yavistes, très souvent. Et dans la cohérence donc de ce livre, la vie des tribus, puisque les tribus sont maintenues, les 12 tribus sont maintenues. Alors je rappelle qu'il y a 2 tribus et demie qui se trouvent en Transjordanie, qui deviendra la Jordanie aujourd'hui, tribu de Réhouven, tribu de Ménaché, et d'autres tribus qui ont traversé le Jourdain, qui se trouvent donc de l'autre côté. Et il y a eu un partage des territoires, et donc chaque territoire et a été donné à une tribu particulière. Donc, la vie des tribus est confrontée autant à des problèmes économiques que religieux. Et notamment les idolâtries donc locales, comme le dieu Baal, donc la grande divinité cananéenne, le dieu Moloch, qui est mentionné également dans la Bible, ne suivez pas le Moloch, hein, et ces divinités vont exercer séduction et attirance durant de longs siècles, et les prophètes, par la suite, vont mener un combat, parfois violent aussi, contre cette idolâtrie et les représentants de cette idolâtrie. Je renvoie notamment à la lutte du prophète Élie ou Élisée, Eliaou et Elisha, contre notamment le roi Achab et son épouse Jézabel. Ces cultes qui satisfont les instincts primaires de l'homme, comme la prostitution sacrée, et qui n'exigent nulle remise en cause morale, donc, sont en rupture avec la loi mosaïque, ô combien exigeante au plan éthique et rituel. Dans le livre des Shoftim, l'unité des 12 tribus, qui traduisait d'ailleurs l'exigence du vieux Jacob, réunissant ses 12 fils autour de sa couche avant de mourir, eh bien cette unité éclate. Elle se morcelle, puisque chaque tribu vit sur son territoire sans se soucier des autres, sans esprit de solidarité, à l'image un petit peu des 70 nations nées à Babel, qui diasporent aux quatre coins de la terre pour cultiver chacune son génie et bâtir sa propre civilisation. Déborah, l'une des héroïnes du livre des juges, la seule femme juge dans le livre des juges, Déborah, qui veut dire l'abeille, par ailleurs, l'exprimera dans son cantique enflammé, Juges chapitre 5, versets 16 et 17, que les spécialistes et les critiques bibliques considèrent comme le plus vieux poème de la Bible, le cantique de Déborah, où elle mentionne qu'elle a fait appel à des tribus pour venir à son aide, mais qu'ils ne sont pas venus et qu'elle s'est retrouvée finalement uniquement avec les tribus du centre du pays. Alors, quelle est la situation militaire du territoire qu'on appelle donc le territoire de Canaan? Alors, territoire de Canaan, en hébreu Canaan, en référence au quatrième fils de Ham, le fils de Noé. Noé, donc, le nouvel ancêtre de l'humanité, celui qui avait survécu donc au déluge, a trois fils, nous dit le texte, donc Shem, Sem, Ham, Ham et Japhet, et Ham est le père d'un certain nombre d'enfants. Donc le chapitre 10 de la Genèse nous donne la généalogie des différents enfants, et Canaan est un des fils de Ham, et donc cet ancêtre s'installe dans les territoires de Canaan. Comme vous savez, dans la Bible, tous les noms de lieux portent le nom de l'ancêtre. Mitzrayim, parce qu'à l'origine, il y avait un personnage qui s'appelait Mitzrayim, etc., etc. En fait, si les Hébreux ont réussi à s'imposer sur tous les territoires, les Cananéens et les autres peuplades locales continuent de résister. On parle souvent dans la tradition, et même dans les textes, des sept peuples de Canaan. En fait, ce n'était pas des peuples, c'était plutôt des peuplades, hein, qui étaient groupées autour d'un chef. Et donc, il y a toujours cette présence, soit à l'intérieur du pays, soit autour. Et donc, il y a à la fois danger militaire et danger religieux par, comme je l'ai dit, les séductions des idolâtries. Si la victoire, par exemple, de Déborah contre les Cananéens du centre du pays offre l'apaisement aux tribus de Zébulon et Naphtali, il n'en est pas de même des tribus situées sur le littoral, soit au nord, avec les Sidoniens, donc le Liban, soit avec les Philistins, les Pilishtim, de la bande de Gaza, où le pays de Moab, donc qui, dont l'ancêtre serait issu de l'union incestueuse entre Lot et sa fille aînée. En fait, il faudra attendre Saül, puis surtout David, pour obtenir une stabilité militaire et économique, avec l'intégration des Cananéens dans la population juive, voire dans l'armée royale. C'est le célèbre Uri, par exemple, le Rithéen. Donc on souligne bien qu'il était Rithéen. Les Rittites étaient une peuplade cananéenne. Abraham aussi avait acheté la caverne Marpella des Rithéens, donc le célèbre Uri le Rithéen, malheureuse épouse de Bethsabée. Alors un mot sur les Philistins, parce que les Philistins ont un rôle important dans le récit de Samson, donc les Pilishtim. Alors ce que nous dit l'histoire, l'archéologie, eh bien ce ne sont pas des Sémites, c'est-à-dire que les Philistins ne viendraient pas de Sem, la lignée de Shem, donc la lignée d'Abraham, finalement des Hébreux, Héber, mais ce seraient des descendants de Japhet, puisqu'on divise à l'époque le monde en trois, donc il y a les Sémites pour le Proche-Orient, il y a les Ramites pour l'Afrique, et il y a les Japhétites pour ce qu'on appellerait aujourd'hui l'Europe. Donc ce ne sont pas des Sémites d'origine, mais des Japhétites, Japhétites. Et on pense qu'ils viennent de Crète, des Crétois, hein, qui vont conquérir le littoral cananéen avant l'arrivée des Hébreux, un petit peu avant. On les appelle d'ailleurs, les spécialistes, ils appellent les peuples de la mer. Il y en avait plusieurs, mais on va s'arrêter à celui de ce peuple-là, des Philistins. Et dans les annales historiques, on nous fait même part que le pharaon Ramsès III, qui est mort en moins 1153, a dû user de stratégie et faire appel à une armée puissante pour réussir à les repousser. C'est un peuple conquérant et finalement les Égyptiens ont pu les repousser et ils vont s'installer donc dans la région de Gaza aujourd'hui, hein, autour de cinq villes qu'on appelle les satrapes, donc avec un gouverneur. Des noms qui vont vous dire quelque chose, hein. La ville de Gaza, la ville d'Ashkelon, la ville de Ashdod, la ville de Gat et la ville de Ekron, hein, des villes qui existent encore aujourd'hui, et donc qui se situent sur la bande de Gaza, peut-être la bande de Gaza étant la plus connue du fait de l'actualité. Alors, le nom de Philistie, Pilishtim, va donner d'ailleurs le nom Palestine. En fait, c'est l'occasion de rappeler que le mot Palestine, en fait, vient de Philistie, et que ce nom a été donné après 135, lorsqu'il y a eu la deuxième révolte juive contre Rome, et que cette deuxième révolte également a été écrasée, et Adrien donc a décidé de nommer la Judée, hein, la Palestine, d'où le nom Palestine. Je dis ça parce que c'est un anachronisme de dire, par exemple, Jésus de Palestine. Non, c'est Jésus de Judée, si on veut respecter l'histoire. Alors, que nous apprend ce livre des juges, ce livre des Shoftim? Quelle est sa finalité, on pourrait dire, sur le plan religieux, pas sur le plan historique? Les rédacteurs, donc j'ai dit sans doute des prêtres, hein, ont voulu donner une leçon au peuple d'Israël, à savoir que le peuple d'Israël n'est pas produit de la nature. Il n'est pas né à Babel, le peuple d'Israël. Les nations, les 70 nations, chiffre symbolique, hautement symbolique, qui représente l'universel dans la Bible, ce chiffre qu'on retrouvera régulièrement jusqu'aux évangiles, eh bien, nous présente la naissance des nations qui ont diasporé depuis le point central de Babel et qui ont reçu, d'une certaine manière, l'inspiration de Dieu, si on peut dire, puisque c'est Dieu qui leur transmet le langage. Mais comme ils ne se comprennent plus, eh bien, ils vont se séparer. Donc, on pourrait dire les peuples, d'une certaine manière, tout en étant inspirés par Dieu pour le langage, ça reste dans la cohérence, d'ailleurs, de la Bible, que Dieu parle, et donc il fait que l'homme parle également, une sorte de miracle de la rencontre du corps et de l'esprit, de pouvoir parler, eh bien, le peuple d'Israël n'est pas né à Babel. Le peuple d'Israël va naître progressivement selon un schéma qui nous est présenté dans le livre de la Genèse, à savoir trois patriarches et quatre matriarches. On pourrait même ajouter deux autres matriarches qui sont Bilha et Zilpa, les servantes de Rachel et Léa, mais qui vont quand même donner quatre tribus, deux tribus chacune. Hein, et le peuple d'Israël va naître beaucoup plus tard. Hein, comme si le rédacteur de la Bible passait rapidement sur la naissance des nations et ensuite nous montrait de quelle manière une famille d'Hébreux, de Sémites, donc Abraham et Sarah, Abraham et Sarah, et qui devient Abraham et Sarah, eh bien, vont donner naissance, petit à petit, à un peuple. Et donc ce peuple est une création, si on peut dire, de Dieu. C'est Dieu qui crée ce peuple, c'est lui qui le libère, et je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Donc le livre des juges, sur le plan religieux, vient enseigner au peuple d'Israël que sa destinée dépend de sa fidélité ou de son infidélité à Dieu. C'est-à-dire, en étant fidèle à Dieu, eh bien, il recevra la bénédiction et la protection de Dieu, mais son infidélité, et son infidélité c'est d'abord l'idolâtrie, eh bien, fera que Dieu les livre en quelque sorte à la tutelle d'une nation qui justement se trouve soit à l'intérieur du pays, soit limitrophe au pays. Et si le peuple ne revient pas vers le Seigneur, eh bien il reste sous la tutelle de, c'est-à-dire à la fois économique, psychologique, militaire. Mais si le peuple d'Israël se reprend et se repent, donc en revenant vers Dieu, eh bien Dieu délivrera. Alors dans ce livre, eh bien nous verrons surtout au début des versets qui sont des refrains, on pourrait dire. Et là, c'est-à-dire que l'auteur ou les auteurs ont vraiment insisté pour marquer les esprits. Hein. Par exemple, les enfants d'Israël ont fait le mal aux yeux du Seigneur et il les vendit à telle ou telle peuplade. Ou bien les enfants d'Israël ajoutèrent de faire le mal aux yeux de l'Éternel et il les livra à la main de... Donc c'est un verset assez récurrent qui, à chaque fois, nous rappelle que cette hégémonie d'un peuple extérieur est toujours justifiée, non pas pour des raisons économiques, militaires, parce que les Philistins, par exemple, étaient passés au stade du fer, alors que les Hébreux étaient encore au stade du bronze, c'est souvent ce qu'on a en avance sur le plan archéologique, mais sur le plan religieux, ce n'est pas l'argument qui est avancé, mais plutôt... le fait que les enfants d'Israël, les béné Israël, sont infidèles à Dieu. Par contre, par un repentir sincère, la situation se métamorphose dans le sens d'une bénédiction. Hein, comme il est dit, par exemple, dans Juges 3, versets 9 et 10, « Et les enfants d'Israël crièrent vers le Seigneur, et il suscita un sauveur, Moshia, un sauveur, né Israël, pour les sauver. » Alors on cite Othniel, fils de Kenaz, etc. Et donc commence le temps des juges. Donc, Chofet, pluriel Choftim, avant d'être des législateurs, comme nous les connaissons dans la loi mosaïque, par exemple dans Exode 18, verset 21, lorsque Jéthro, le beau-père de Moïse, conseille à Moïse de choisir des juges, il est dit des juges qui sont... Anche Emet, Sone Batsa, des hommes de vérité qui haïssent la corruption. Hein. Ou bien, dans le chapitre 16 du Deutéronome, Shoftim et Shotrim, tu nommeras des juges et des exécutants, une police en quelque sorte qui va exécuter les décrets de justice. Eh bien, nous avons une nouvelle image du juge ici. Ce n'est pas un juge assis à la porte de la ville, comme cela est mentionné dans différents passages de la Bible, c'est d'abord un chef militaire. Ce chef militaire qui peut également rendre la justice et qui rendra ensuite la justice une fois la victoire réalisée, mais il y a cette dimension de chef militaire qui touche tous les juges du livre, justement, qui porte ce nom. Alors, ces chefs militaires sont inspirés par Dieu. C'est-à-dire, Dieu suscite un chef militaire qui triomphe donc des peuplades tutélaires et prolonge la paix de la tribu, hein, puisqu'il n'y a pas de solidarité, ce n'est pas un rassemblement de tribus qui vont défendre la tribu ou les tribus concernées, mais c'est un chef de tribu qui défend sa tribu et qui ensuite eh bien, offre une période de paix jusqu'à sa mort. Et puis, nouveau scénario, les enfants d'Israël commettent le mal aux yeux de l'Éternel, de nouveau séduction des idoles, etc. Alors, comme il y a une femme, honneur aux dames également, eh bien, donc j'ai parlé de Déborah. Déborah qui pourrait à la fois évoquer l'image de Saint-Louis, qui rendait la tradition, la justice sous un chêne. Eh bien, il y a déjà un précédent, puisque Déborah rend la justice sous un palmier. Tomer, Déborah, le palmier de Déborah. C'est également, on pourrait dire, une image de Jeanne d'Arc avant l'heure, hein, puisqu'elle porte les armes pour bouter les Cananéens et son roi Yavin. Hein. Donc il y a une femme qui rend la justice et qui prend les armes pour repousser le peuple cananéen. Alors, le nombre de juges mentionné dans ce livre est un chiffre symbolique, c'est le chiffre 12, on compte 12 juges, et certains sont à peine mentionnés. Alors il est possible que les rédacteurs ont tenu à ce chiffre 12, parce que c'est un chiffre récurrent, comme on le voit, les 12 tribus d'Israël, les 12 mois, et voilà, les 3 grands prophètes et 12 petits prophètes. Donc, certains sont mentionnés très rapidement, et puis certains sont mentionnés avec moult détails, avec plusieurs chapitres. C'est le cas de Déborah, dont je viens de parler, c'est le cas de Gédéon, Gidon en hébreu, et puis notre héros de ce soir, donc Samson, Samson, en hébreu, Shimshon. Alors, un mot sur la tonalité générale de ce livre de la Bible. Si la Bible présente souvent des situations de violence, dès le départ, on pourrait dire Cain a tué Abel, c'est un livre violent, c'est-à-dire qui présente des scènes violentes, où les femmes elles-mêmes participent de cette violence, soit de manière active, comme par exemple une femme, il y a elle qui va planter un pieu chez un ennemi, ou bien une femme qui jette une meule du haut de la tour sur un certain Abimélec, qui est le fils de Gédéon. Donc il y a une violence qui est partagée entre les hommes et les femmes. Et le livre s'achève d'ailleurs par une guerre civile entre la tribu de Benjamin et les autres tribus suite à une affaire de viol collectif. Alors, peut-être on étudiera ça une autre fois, mais c'est un livre très violent, puisque justement il y a des juges qui sont des chefs militaires, donc il y a des combats. Dieu, dans ses récits, ne combat pas comme il avait combattu les Égyptiens, par exemple. Il ne transforme pas le cœur des hommes non plus, pour les rendre bons et généreux, mais il suscite simplement le chef militaire. Bien sûr, dans ce livre, nous sommes bien loin des enseignements édifiants du livre des Proverbes ou du Sermon sur la montagne. Mais peut-être nous sommes dans la mentalité de l'époque, c'est-à-dire une mentalité aussi guerrière, et c'est peut-être une raison, c'est celle que je retiendrai, la raison pour laquelle on a tenu à ce qu'il y ait un épisode de conquête plutôt qu'une installation, comme diraient les historiens, les archéologues aujourd'hui, c'est peut-être pour garder une mémoire forte pour ce peuple naissant, en disant, ben, nous aussi, nous avons eu nos conquêtes comme tous les peuples de l'Antiquité qui tiraient également un honneur d'avoir conquis leur territoire. Alors, on peut dire que ce livre des juges donc, se veut autant un rappel à la fidélité à Dieu qu'un maillon dans la mémoire historique d'Israël pour relier le temps des ancêtres, en particulier le temps des patriarches, des matriarches, le temps de la sortie d'Égypte, au temps de la monarchie. Comment nous en arrivons finalement à la monarchie, en passant par le dernier des juges qui s'appelle Samuel, qui lui n'est pas du tout un militaire, comme si nous quittions le temps de la violence pour avancer vers un temps de pacification. La même chose avec Saül et David, et ensuite on arrive à un temps de pacification. Et on pourrait peut-être ajouter également que ce livre veut rappeler qu'en fin de compte, l'homme doit accepter la royauté de Dieu. Notamment dans le récit de Gédéon, donc un juge aussi intéressant, peut-être l'année prochaine ou autrefois on pourra l'étudier, parce qu'il y a plusieurs chapitres. Mais lorsque Gédéon va remporter sa victoire, hein, et on va lui demander d'être... alors lui, il est agriculteur, voilà, il est en train de ranger le foin, et puis il y a un ange qui lui apparaît. Et à la fin, on lui dit, puisque tu as remporté la victoire, eh bien, domine sur nous, règne sur nous, ou bien l'un de tes fils. Et il répond, ni moi, ni mon fils, ni mes fils, nous régnerons sur vous. C'est Dieu qui règne sur vous. Donc ça, c'est un passage intéressant pour enseigner seul Dieu est le roi d'Israël. C'est-à-dire qu'en fait, que la monarchie serait peut-être un pis-aller, et que idéalement, il n'y a en Israël et ensuite dans le monde, il n'y a qu'un roi, c'est Dieu qui est le roi, et les juges sont là uniquement pour exécuter la loi de Dieu, mais au fond, les hommes pourraient se passer de Dieu s'ils avaient finalement cette conscience de l'être supérieur. Voilà, ça c'est un peu pour présenter le livre des juges. Alors, Samson, donc Shimshon en hébreu, hein, de la racine... Shamash ou Shemesh, on allumait avec le Shamash. Alors Shamash, ça veut dire le serviteur. Dans la synagogue, le Shamash, c'est le bedeau, celui qui accueille les fidèles, qui leur donne un livre, qui leur demande de se lever, de s'asseoir. Shemesh, c'est le soleil. Vous allez me dire, quel rapport entre un serviteur et le soleil? C'est que dans la conception biblique des Hébreux, ben, le soleil, c'est le serviteur de la terre. Puisque Dieu a créé le soleil et la lune, n'est-ce pas? La lune qui nous envoie non pas sa lumière, parce qu'elle n'en a pas, mais la lumière du soleil. Et donc le soleil et la lune sont des serviteurs, en quelque sorte, pour éclairer la terre et pour éclairer l'histoire de l'homme. Alors Shimshon, avec une forme superlative à la fin, quand on a une part « on », bon, ça serait une sorte de super soleil, de super serviteur. J'ai presque envie de dire d'un super héros, comme on le dit aujourd'hui pour certains personnages de bande dessinée. Alors c'est un personnage très original, on ne va pas en trouver des 36, on va en trouver un seul Samson. Hein. C'est à la fois notre Héraclès et notre Hercule, parce que d'une certaine manière, il a une force surhumaine. Hein. Comme Hercule, comme Héraclès, il va d'ailleurs se battre contre un lion, hein, à main nue, qu'il va battre d'ailleurs, il va déchirer, dit-on, comme un mouton. Et comme nous sommes dans une rencontre entre juifs et chrétiens, j'ai envie de dire qu'il y a une image, ça vous le travaillerez, je vous donnerai quelques pistes, presque une image pré-christique de ce personnage dont le récit pourrait, en quelque sorte, être une sorte de préambule d'un récit évangélique. Je donnerai quelques pistes qui peuvent être intéressantes. Mais ça serait... un Jésus en contre-jour, en noir et blanc. Alors Samson mélange la légende et le réalisme. Quelle est la part de légende, ce personnage qui est d'une force surhumaine? Il n'est pas juge comme les autres, c'est-à-dire qu'il ne mène pas un combat avec des troupes, il est tout seul, il reste toujours tout seul. Donc ce n'est pas un chef militaire, il se distingue par une chevelure abondante tombant sur ses épaules, parfois avec des nattes, on dit qu'il avait attaché ses cheveux par des nattes. Il fréquente des filles philistines aux grandes dames de ses parents, notamment sa mère, une mère juive, qui voudrait qu'elle épouse la petite Cohen ou la petite Lévi du coin, mais il est plutôt attiré par les philistines. Et puis, donc, cette force surhumaine, il arrache des portes de la ville, de Gaza. Il tue donc, comme j'ai dit, un lion avec ses mains. Il pose des énigmes. Il utilise des renards pour mettre le feu dans les champs des Philistins. Il tue des nobles qui portent de beaux habits pour récupérer les habits. Et donc, il est surtout habité d'une force surnaturelle, qu'on pourrait dire une force divine, en fait. Une force divine. D'ailleurs, cette force est telle qu'il va terrasser une armée de 1000 hommes, philistins, avec une mâchoire d'âne. Et comme il a soif après le combat, il implore le Seigneur et une source va jaillir du rocher. Donc un personnage assez étonnant où la présence de Dieu l'habite profondément, Dieu réalise des miracles pour lui et cette force qui le rend à part de toute sa génération. Il n'a pas d'amis, il n'a pas à proprement parler de femme, d'épouse. Il va essayer de se marier avec des Philistines, notamment Dalila. Il n'a pas de maître, il n'a pas de disciple. C'est un homme seul qui mourra seul. Mais en lisant le texte, nous découvrons dans la manière dont le texte est écrit qu'il est toujours accompagné de Dieu. Alors on va essayer d'y voir un peu clair. Alors le début de ce récit nous présente, donc c'est au chapitre 13 et suivant que vous trouverez le livre, le récit de Samson, de Shimshon. Alors l'histoire ne commence pas par Samson, mais elle commence par ses parents. Alors nous connaissons le nom de son père, Manoah en hébreu, c'est comme Noah, Manoah. Et il est marié avec une femme dont on ne connaît pas le nom, un peu comme Noah, on ne connaît pas le nom de sa femme, Noé. Cette femme est stérile. Cette femme est stérile et donc elle fait partie des femmes stériles de la Bible, comme les matriarches et comme plus tard également Anne, et comme plus tard Marie. Et c'est là que nous allons voir une sorte de schéma annonciateur, puisque ce n'est pas Manoah qui va recevoir la visite d'un ange, une visitation d'un être céleste, mais c'est cette femme dont on ne connaît pas le nom, et elle reçoit cette visitation, cette prophétie, qui lui annonce qu'elle va enfanter et que cet enfant sera consacré à l'Éternel depuis le ventre, et qu'il sera consacré en tant que Nazaréen, c'est-à-dire en tant que Nazir. Alors l'année dernière, nous avions étudié ce chapitre du livre des Nombres, chapitre 6 du livre des Nombres, qui présente ce Nazir sans doute de la racine Nézer, un diadème. C'est un homme qui est consacré à Dieu, et vous rappelez, pour ceux qui étaient là l'année dernière, les trois interdits qui caractérisent le Nazir, le Nazaréen: l'interdiction de se couper les cheveux, l'interdiction de boire du vin, et l'interdiction de rentrer en contact avec des morts, par exemple d'entrer dans un cimetière. Et que le Nazaréen, qui était un homme ou une femme d'ailleurs, prenait sur lui la condition du grand prêtre, du Kohen Gadol, puisque le Kohen Gadol ne se coupait pas les cheveux durant toute la période de sa prêtrise, il ne buvait pas de vin, et autant que possible, il n'était pas en contact avec la mort. Et quand c'était le cas, ben, il se purifiait. Donc c'est un homme consacré à Dieu, le Nazaréen, le Nazir. Et on pourrait dire, dans la cohérence du livre des Nombres, que c'est un homme qui veut vivre un petit peu une sorte d'ascétisme, donc s'éloigner un petit peu des hommes. Et le texte va nous dire que, précise, il commencera à sauver Israël des Philistins. Léoshia est Israël mi-Pélishtim. Il va commencer à sauver Israël des Philistins. Léoshia, c'est le nom sauveur que vous reconnaissez ici. Donc il y a une dimension de sauveur. Et vous voyez les conditions dans lesquelles ce personnage est introduit dans l'histoire. Ce n'est pas un chef militaire qui est inspiré, comme par exemple Jephté, qui est un chef de bande, qui finalement accepte d'être le chef d'Israël, mais il est consacré depuis le sein maternel. Et donc cette femme ne doit pas consommer, ne doit pas boire de vin en particulier. Elle raconte cette histoire à son mari, qui dit « Je voudrais avoir des preuves ». les relations entre hommes et femmes ne sont pas bonnes aussi dans ces récits. C'est soit séduction, soit des doutes. Et donc, l'ange va apparaître une deuxième fois et va dire à ce bon manoir, ce que j'ai dit à ta femme, je confirme. Et donc, cet enfant va naître, on va l'appeler Shimshon, petit soleil. Là encore, c'est un syndrome de mère juive, c'est tous les enfants qui naissent sont toujours des petits soleils, il éclaire la vie, ou le petit serviteur de sa maman. Voilà, c'est un enfant qui va très vite montrer des dons particuliers. Le don qu'il va révéler, c'est la puissance, la givura, la force, une force physique. Et donc, c'est assez étonnant d'imaginer un nazir, où nous sommes peut-être surpris de ce qu'un nazir, un nazaréen qui serait plutôt un être consacré à Dieu, donc peut-être doux comme un agneau, eh bien, être agité par Ruach Elohim, par le souffle de Dieu, c'est-à-dire par l'esprit de Dieu, qui commence à le bousculer, les paramos, paramon, c'est une cloche, c'est comme s'il était secoué, n'est-ce pas, par l'esprit de Dieu. Et on nous donne même le lien entre Tzora et Eshtaol, il est investi de l'esprit de Dieu. Et cet esprit de Dieu, c'est un esprit de puissance physique. L'Esprit Saint, d'ailleurs, va aller en grandissant, si on peut dire, qu'il y a comme une sorte d'accoutumance, et au fur et à mesure que le personnage se développe, eh bien, cette présence l'habite de plus en plus. Nous retrouvons notamment dans sa jeunesse où le premier exploit qu'il va réaliser, c'est d'être attaqué par un lion, et donc il va tuer ce lion à main nue, en 14-6. Ensuite, un peu plus loin, on dit que pour aller chercher des tuniques, parce qu'il pose une énigme, et d'ici vous trouvez la solution à mon énigme, eh bien, je vous donnerai 30 tuniques, sinon c'est à vous de me donner 30 tuniques. Finalement, ils arrivent à trouver la solution de l'énigme. Alors, il va chercher des Philistins, donc il est habité de force. On pourrait penser à Astérix et Obélix, n'est-ce pas, avec les Romains qui laissent leurs vêtements lorsqu'ils reçoivent un coup. Et puis, à la fin, lorsqu'il se trouve chez Dalila et qu'il commence à révéler son secret, parce qu'il a un secret qu'il ne doit pas révéler, c'est-à-dire que sa force se trouve dans ses cheveux, il dit « Si on m'attache les poignets avec des cordelettes neuves, eh bien, je perdrai toute ma force. » Et puis, Dalila, qui est une séductrice, va à la solde des Philistins, n'est-ce pas, lui dit les Philistins sont là, et on dit l'Esprit de Dieu l'a habité, et il défait les cordelettes comme des cordes brûlées par le feu, c'est-à-dire sans difficulté. Alors, je vais donner une lecture juive sur l'Esprit Saint ou l'Esprit de sainteté, ce qu'on appelle la Ruach à Kodesh, ou Ruach à Elohim, ou Ruach Adonai, enfin différentes expressions. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de sainteté, ou le Saint-Esprit, qu'en fait, ce serait la même expression, on pourrait y revenir. Donc, la tradition juive, qui a pensé dans sa théologie, dans sa foi, à cette notion de Ruach HaKodesh, présente, je me réfère notamment à Maïmonide, au XIIe siècle, qui a fait un peu une synthèse de tout ce qui avait été dit, notamment dans le Talmud et dans le Midrash, dans le guide des égarés, ou guide des perplexes, au livre 2, chapitre 45, où il présente 11 degrés de l'Esprit-Saint. C'est-à-dire que l'Esprit-Saint, ou le Saint-Esprit, ou l'Esprit de sainteté, ne serait pas un mouvement uniforme de la relation de Dieu avec la créature, le prophète, mais cet esprit s'exprimerait en fonction de la capacité de l'individu de recevoir cet esprit de Dieu. Le dernier niveau, le 11e niveau pour Maïmonide, est le niveau de Moïse. Moïse est considéré comme le grand prophète, puisque seulement pour Moïse, il est dit que Dieu parlait panim el panim, visage à visage. Le premier niveau d'esprit de sainteté pour Maïmonide, donc la tradition juive, c'est Ruach Givura, c'est-à-dire l'esprit de puissance dans le sens de courage. Et Maïmonide va proposer cette lecture en disant que Moïse passe par les différents stades de cette expérience, de cette expérimentation de l'Esprit de Dieu en lui, puisqu'au départ, avant même sa rencontre avec Dieu, il est animé par un esprit de justice et un esprit de force, c'est-à-dire de force physique. Comme vous savez, au début de l'Exode, il est dit que Moïse va défendre un Hébreu en tuant un Égyptien, alors que Dieu ne lui a pas du tout parlé, mais c'est plus fort que lui, en quelque sorte, il est habité par cette puissance qui est la puissance de Dieu. Plus tard également, quand il se trouve au puits de Madian et qu'il voit des délinquants qui veulent repousser les filles de Yitro en leur disant « dégagez », comme on dirait aujourd'hui, parce qu'on voudrait faire boire nos troupeaux. Et Moïse dit « chacun son tour, elles étaient là avant vous, messieurs », et il les chasse. Donc c'est un esprit de puissance qu'il habite, et ce n'est que plus tard qu'il va rencontrer le Seigneur au buisson ardent et même les expériences du Mont Sinaï. Et donc, l'esprit de sainteté pourrait avoir différentes expressions, et avec Samson, avec Shimshon, eh bien, elle prend l'expression d'une force physique surnaturelle. Alors, Samson est attiré par les Philistines, je l'ai dit. Alors, c'est un thème qui apparaît deux fois. La première fois dans sa jeunesse où il va justement chercher une épouse philistine, et ses parents, son père et sa mère, sont désolés de cette situation. Et son père, d'ailleurs le verset dit, 14-14, son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Donc, en fait, il est attiré par les Philistines parce que Dieu suscite en Samson ce désir des Philistines. Il a une attirance vers les jeunes femmes étrangères. Alors je faisais un parallèle, bien sûr, c'est le blanc et le noir, mais enfin, on voit également chez Jésus, vous m'en direz ce que vous en pensez, Père Michel, qu'il y a aussi ce regard bienfaisant de Jésus sur les femmes, des nombreuses femmes, des cananéennes, des femmes de petite vertu, comme on dit. Là encore, une sorte de parallèle. Et Samson cherche à, en fait, dit le texte, des prétextes. On a presque envie de dire, il cherche des noises aux Philistins. Alors, la question à l'intérieur de ce texte, on pourrait dire la cohérence du texte, quelle est la stratégie de Samson, de cet homme qui est choisi par Dieu, pour repousser les Philistins? Les Philistins constituent un peuple fort, puissant, et cruelle aussi, dont on a peur. Cette cruauté, elle apparaît justement au cours du mariage de Samson avec une Philistine dont on n'a pas le nom. Il décide donc d'épouser cette jeune fille. Et là, nous sommes dans la fête. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que la fête du mariage n'est pas d'origine hébraïque. Il semble que les Hébreux ne faisaient pas de fête. Isaac rencontre Rebecca, il la fait entrer dans la tente avec une grande pudeur, et puis elle devient sa femme, il l'aima, il se consola de sa mère. Alors que chaque fois que nous sommes dans un mariage à caractère païen, eh bien il y a la fête. Ça commence avec Laban, n'est-ce pas ? Enfin, c'est assez intéressant, en passant, que la fête serait du côté des païens et que la discrétion, la pudeur serait du côté des Hébreux. Bon, bien sûr, par la suite, la fête du mariage est devenue un événement familial, communautaire, plus important. Donc, il se trouve avec sa femme, donc il y a des Philistins, et puis il leur dit « je vais vous poser une énigme ». Voilà, j'aime poser des énigmes. Et il leur dit « voilà, du mangeur, du fort est sorti le doux, et du mangeur est sorti le manger ». Donc, si vous trouvez la solution dans une semaine, puisque c'est une semaine de fête, je vous donnerai donc 30 tuniques, et puis sinon, c'est vous qui me donnerez 30 tuniques. Voilà. Et en fait, il espère qu'ils ne trouveront pas, et comme ça, il pourra se moquer d'eux, lui qui est un Israélite de la tribu de Dan, on y reviendra. Hein, et qu'est-ce que ça veut dire cette histoire du fort est sorti le doux, du mangeur est sorti le manger. En fait, nous savons, nous en tant que lecteurs, nous savons la réponse, c'est que ce lion que Samson avait tué quelques années auparavant est devenu le nid d'un essaim d'abeilles. Et donc en passant pour aller rencontrer sa dulcinée, eh bien il prend un petit peu de miel, n'est-ce pas ? Et il se dit, voilà, du mangeur est sorti le manger, du fort est sorti le doux. Et là, nous allons voir la première confrontation d'un autre type de rapport de force. C'est la jeune fille qui va demander à Samson, « Dis-moi ton secret. Dis-moi le secret de l'énigme. » Pourquoi ? Je disais que les Philistins étaient cruels, puisqu'ils vont faire chanter cette jeune fille en disant « Si tu ne trouves pas la solution de cette énigme, toi et toute ta famille, vous serez brûlés vifs dans votre maison. » Alors donc cette jeune fille a peur et elle va insister jour après jour jusqu'à ce qu'à la fin, ce puissant gaillard qui a une force physique remarquable, mais qui va toujours présenter cette faille vis-à-vis de la femme, qui lui dit « Quel est ton secret ?» Et à la fin, il révèle son secret et lui dit « Y a-t-il plus fort que le lion ? Y a-t-il plus doux que le miel ?» Voilà. Et donc, le septième jour, les Philistins lui présentent la solution. Et il dit « Si vous n'avez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas trouvé, mais je vous offrirai les 30 tuniques. » Et c'est comme ça qu'il va attaquer donc 30 Philistins, les dépouiller de leurs vêtements et les prendre, mais en même temps, il claque la porte. Alors, la question, c'est quelle tactique, hein, on reste dans la cohérence du texte ici et du livre des juges, quelle tactique ? Comment faire pour renvoyer ou éloigner les Philistins quand le peuple a peur, quand on ne peut pas rassembler une armée autour de soi, et cette tactique militaire, si on peut dire, c'est le fait d'agir seul, en justicier solitaire. Je prenais l'image d'un super-héros. Hein. Et, d'une certaine manière, il va donner sa vie. J'exprime ces mots de cette manière pour faire lien aussi, pour voir qu'il y a une sorte de parallèle. Il veut donner sa vie pour... Ici, le peuple d'Israël qui est asservi, il porte sur lui, le peuple d'Israël, sa souffrance, sa douleur, ses fautes, et aussi ses infidélités à Dieu. Alors, il est issu de la tribu de Dan, c'est un Danite. D'ailleurs, si vous avez vu le film, ou si ça vous donne envie de revoir le film qui est sorti dans les années 50, 55, 56, de Cécile B. 2000, célèbre pour les 10 commandements. Il avait fait également un péplum qui s'appelle Samson et Dalila. Bon, c'est assez hollywoodien, mais enfin, et dans le film, il n'est pas appelé israélite, il est toujours appelé le Danite, hein, les Danites, parce qu'il est de la tribu de Dan. Alors, peut-être c'est intéressant de réfléchir sur cette tribu de Dan. Dan, c'est le fils de Jacob et de Bilha. Alors, Rachel est stérile. C'est la troisième matriarche qui est stérile. Sarah était stérile, Rebecca était stérile avant d'enfanter. Rachel est stérile, que fait-elle ? Eh bien, elle va utiliser la stratégie de l'ancêtre, de Sarah, et elle va donner sa servante. Et de cette union va naître Dan, hein, qui veut dire juge, Dieu m'a jugé. Hein, ça donnait aussi Daniel, Dieu me juge, Dieu est mon juge. Et donc le premier enfant issu indirectement de Rachel, c'est Dan. Et donc il constituera une tribu donc, qui va s'installer sur le littoral, dont la frontière est commune avec la Philistie, justement avec la bande de Gaza. Alors, cette tribu de Dan, dans la bénédiction de Jacob, hein, est comparée à un jeune lion, un gour-arié. Gour-arié, c'est le jeune lion. Exactement comme Judas. Judas également est appelé le lion de Judas, comme on le voit dans les synagogues, sur les rouleaux de la Torah. Donc c'est le symbole de la royauté de Dieu et de la royauté davidique, et donc aussi la royauté du Messie. Et donc comme s'il y avait deux rois en Israël, dans la bouche de Jacob, hein, c'est à la fois Judas et Dan. Quand on se réfère au maître d'œuvre du temple portatif du désert, nous découvrons deux personnages, l'un qui s'appelle Betsalel, Betsalel qui est de la tribu de Judas, et Aholiab qui est son capitaine d'œuvre, hein, qui est de la tribu de Dan. Donc nous voyons également dans les récits de l'Exode, pour la construction du temple, eh bien, réalisé par deux personnages qui ont tous les deux une dimension royale. Quel est le statut de Dan dans les tribus d'Israël? Dans le livre des Nombres, au chapitre 10, au verset 25, on dit que Dan est Me'asef l'Echol Amahanot. C'est celui qui rassemble tous les camps. Parce qu'en effet, il y avait plusieurs camps, les tribus. Hein. Donc il y avait 12 tribus et celui qui ferme la marche. Marché 3, 3, 3. Donc au centre, il y avait l'arche et puis le peuple se déplaçait d'une certaine manière. Hein. Et celui qui ferme la marche, eh bien, est Dan. Hein. Et autrement dit, c'est celui qui protège le peuple d'Israël des attaques extérieures, notamment, comme on l'apprendra par la suite, de Amalek, qui va attaquer par derrière. Hein. Et on pourrait dire, sur un plan symbolique, que Dan représente celui qui se confronte aux forces extérieures à la présence de Dieu. C'est celui qui est limitrophe des nuées de gloire qui entourent le peuple d'Israël et qui le protège durant sa traversée du désert, et celui qui va, c'est dit la tradition, même pour amplifier cela, qui sort de l'ombre de la présence pour aller à l'extérieur chercher, en quelque sorte, les brebis perdues. Donc il y a cette dimension de celui qui va vers les plus faibles, celui qui va chercher ceux qui sont le plus éloignés, pour les ramener sous les ailes de la présence divine. On aurait presque envie de dire que Judas représenterait un messie de gloire, puisque dans le nom de Yehuda, on retrouve le tétragramme, le Yud, le He, le Vav et le He, avec le Dalet au milieu. Comme dit mon ami Marc-Alain Wacklin, c'est la porte de Dieu, la porte du tétragramme. Mais on pourrait dire que Dan, c'est plutôt un messie de l'histoire dans ses obscurités. Hein, vous voyez, tous les deux ont une dimension royale, et Samson serait le juste, en quelque sorte, un curieux juste d'ailleurs, qui se confronte à la vie dans ses côtés les plus obscurs, les plus négatifs, et tout en restant fort, sans verser une larme, sans se lamenter de son sort, en continuant seul son œuvre de libération. Il est à la fois nazaréen et à la fois soldat, et son but jusqu'au bout, c'est de sauver le peuple d'Israël. Sa dernière épreuve, la plus dure, c'est la rencontre avec une courtisane, Dalila. Dalila qui va être payée pour le séduire. Alors, c'est un doublon assez célèbre, Samson et Dalila, comme Bonnie and Clyde, je ne sais pas, et d'autres, Laurel et Hardy, on a trouvé d'autres. Voilà. Samson et Dalila, c'est une sorte d'histoire d'amour qui va finir mal, parce que est-il amoureux, ou en tout cas, il recherche cette présence de Dalila, et Dalila n'a qu'un but, c'est de trouver le secret, exactement comme la première épouse. Et petit à petit, jour après jour, il va commencer à révéler, et là encore ce sont les failles, la faiblesse de l'homme par rapport à la femme, il est fort physiquement, mais psychologiquement il est faible, et il va commencer à révéler en disant, bon, si on m'attache les mains avec des cordelettes neuves, ma force, et puis ensuite il va donner des signes, il dit, si on attache mes tresses, hein, à un métier à tisser, eh bien je perds ma force. Donc il commence à indiquer que sa force se trouve dans ses cheveux. Bien sûr, à chaque fois, Dalila lui dit, les Philistins sont là, réveille-toi. Et puis à chaque fois, il se lève, il casse le métier à tisser, il défait les cordelettes, et à chaque fois, elle pleure. Alors, il faut croire que devant les pleurs de la femme et sa séduction, il ne sait pas résister. Elle dit, oui, si tu m'aimes, si tu m'aimes, si tu m'aimes, tu vas me donner ton secret, je t'assure, après j'aurai oublié. Et finalement, il va lui révéler que il est consacré à Dieu, c'est un Nazaréen, il se reconnaît lui-même comme tel, consacré à Dieu depuis le ventre de sa mère, et sa force se trouve dans ses cheveux. Et si ses cheveux sont rasés, il perdra toute sa force, comme s'il perdait son lien avec le Seigneur. Elle va le saouler, il va s'endormir, elle va prendre un rasoir et elle va couper ses nattes, elle va lui couper les cheveux. Et elle lui dit, les Philistins sont là, et cette fois-ci, il n'a plus de force. Et les Philistins vont lui crever les yeux et vont l'attacher seul à pousser la meule, qu'il fallait plusieurs hommes pour pousser, et il va tourner comme ça, aveuglément. La tradition va expliquer, va donner une raison. Il a suivi ses yeux, il a été frappé dans les yeux. On retrouve toujours ce thème, comme vous avez agi, vous serez jugé, comme vous avez jugé, vous serez jugé. Jacob avait trompé son père avec un vêtement, lui aussi a été trompé par son beau-père avec le vêtement, puisque Léa s'est fait passer pour Rachel. Et donc c'est des récits assez cohérents. Et à la fin, alors on nous dit qu'il est amené dans le peuple de Dagon. Dagon, c'est Dagon. Donc Dagon, ça vient de Dag. Dag, c'est le poisson. Comme ce sont des peuples de la mer, donc sans doute ils rendent un culte à Neptune ou à Poséidon. Et donc Dagon, c'est la divinité. Donc on a trouvé des traces archéologiques de ce dieu poisson, un peu comme une sirène au masculin, un dieu. Et donc, il est amené au centre de cet édifice qui repose sur deux colonnes, dit le texte. Donc, le peuple est sans doute sur une esplanade au-dessus. Et il demande à celui qui lui tire les chaînes de l'amener entre ces deux colonnes. Et il prie une dernière fois le Seigneur. C'est la seule fois où il s'adresse à Dieu. Et il demande à Dieu de lui rendre une dernière fois sa force, et il demande de mourir, on dirait aujourd'hui en kamikaze, que mon être meure avec les Philistins, et Dieu lui accorde une dernière fois sa force, il pousse ses deux colonnes, et il est écrasé en même temps que les Philistins. Donc fin de récit. Alors le message de Samson, je vais conclure là-dessus, je vais donner trois leçons. Premièrement, l'énigme de Samson serait peut-être la clé de tout ce récit. Du fort est sorti le doux, du mangeur est sorti le mangé. Ça serait, pour reprendre l'expression du professeur André Neher, l'essence du prophétisme. L'essence du prophétisme, c'est-à-dire comment finalement sortir de la violence. Même si nous sommes dans un livre de violence, nous sommes dans un récit de violence, la question ultime depuis l'origine, c'est comment sortir de cette violence et passer du fratricide à la fraternité. Du fort est sorti le doux. Finalement, ce lion qui est le roi des animaux, qui attaque Samson et qui a dû dévorer d'autres habitants du pays. Plus tard aussi avec David, on dit que lorsque David va combattre Goliath, il était chétif. On dit, mais comment toi, tu n'es pas un homme de guerre alors que Goliath est aguerri. Il dit, oui, mais quand il y avait des lions et des ours, je les chassais. Donc, voilà. Donc du fort est sorti le doux, du mangeur est sorti le manger. C'est-à-dire partager, finalement, peut-être la bénédiction de Dieu entre tous les hommes. Donc voilà, il y aurait, dans cette énigme, il y aurait peut-être cette idée à méditer, à creuser, donc de cette essence du message prophétique. La deuxième idée, c'est que Dieu choisit des chemins étonnants et surprenants pour réaliser sa volonté. Comme le proverbe, je ne sais pas qui l'a dit, Dieu écrit droit, je ne sais pas si c'est André Gide, mais je ne suis pas sûr, Dieu écrit droit avec des lignes courbes, n'est-ce pas ? C'est-à-dire en se choisissant ce personnage assez étonnant, Dieu choisit celui qui va sauver, en l'occurrence ici, Israël. Troisième élément, peut-être la force physique n'est rien sans la force morale et sans la force spirituelle. C'est-à-dire, il est fort, oui, il peut arracher des portes, des grandes portes de ville, il peut tuer de ses mains un lion, mais lorsque une jeune femme le séduit, est-il capable de résister ? Joseph n'avait pas la capacité physique de Samson, et pourtant il a été capable de résister à la femme de Potiphar. Et peut-être qu'il ne sait pas utiliser sa force aussi à bon escient, de savoir résister. Il n'a pas tiré la leçon sa première épreuve, quand sa femme, la première femme, avait réussi à lui faire révéler son secret. Je pense à un film que vous avez peut-être vu, qui s'appelle « Le chariot de feu ». Est-ce que ce film vous dit quelque chose ? Oui ? C'est, vous savez, des années 80, je pense. C'est un film qui est connu sur, enfin, pour le récit, mais aussi pour sa bande musicale de Vangelis, qui est très, très, très beau. Je pense que vous le trouvez sur YouTube. Surtout qu'il y a, un juif et un chrétien. Et, parce que chacun doit lutter, en quelque sorte, parce que ça se passe dans les années 20, parce que c'est pour les Jeux Olympiques de 24, donc c'est un récit réel. Hein. Et donc, il y a le juif qui, enfin, ce chrétien qui court très vite et donc qui vont représenter l'Angleterre. Et donc on doit lutter à la fois contre les préjugés d'entre les deux guerres pour le juif et le chrétien qui court très vite, qui a aussi un don de Dieu, un peu comme Samson, et, mais qui refuse de courir le dimanche parce que c'est le jour du Seigneur.
Ah, c'est un...
Non, c'est, je crois que, c'est le samedi.
C'est le Shabbat.
Ah oui, il faut que je le revoie alors. Il veut pas courir le samedi alors, parce qu'il dit c'est le jour du Seigneur. Alors il y a le comité olympique qui se réunit. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il dit non, mais attendez, moi, il va terminer d'ailleurs, il va devenir prêtre, mais il dit je mets mon don au service de Dieu et comment je pourrais courir le jour du Seigneur ? Ce serait renier le don qu'il m'a fait. Et finalement, il va repousser la date de, il va remporter d'ailleurs la victoire. Hein. Voilà, donc les chariots de feu, vous pouvez trouver ça. Voilà, et maintenant, j'aurais terminé, en passant la parole au Père Michel, par cette formule, pour faire lien. Je dirais que Samson est faible par sa force, et que peut-être Jésus est fort par sa faiblesse. Bon, voilà, c'était pour transmettre, et je passe la parole au Père Michel.
Qui n'a pas, qui est peu cité dans le Nouveau Testament, d'ailleurs, qui est peu cité dans la Bible, en dehors du livre des Juges. Hein, à l'exception du livre des Juges, on ne le trouve pas mentionné. Et dans le Nouveau Testament, pourtant, vous trouvez une indication dans ce qu'on appelle la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, un chapitre très intéressant, puisqu'il essaye de repérer, enfin, il valorise les grands personnages du Premier Testament en essayant de montrer qu'ils furent des hommes de foi et en donnant comme définition à la foi ceci, la foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas, voilà, la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas, et parmi ces personnages, bon, il passe bien sûr en revue les principaux, Abraham, Moïse, David, etc. Et que dirais-je encore ? Le temps me manquerait si je racontais ce qui concerne Gédéon, Barak, Samson, Jephté. Voilà, hein, donc c'est la mention de Samson. Enfin, bien sûr, Samuel, les prophètes, et bien sûr le roi David. Mais voilà, une seule mention, ce qui est quand même assez peu hein, sur le personnage, ce qui dit bien peut-être le trouble. On a pu éprouver face à ce colosse au cœur d'artichaut. Voilà. En même temps, ce qui est intéressant, c'est si je relève cela, c'est que peut-être on peut se servir de Samson pour illustrer un principe qui, selon Jésus, est un principe des Écritures. Enfin, je dis selon Jésus, hein, c'est un point de vue chrétien que je dis. Il fallait que le Messie souffrît pour entrer dans sa gloire. Voilà, il fallait que le Messie souffrit pour entrer dans sa gloire, qui est une phrase que Jésus dit à deux disciples sur la route de Jérusalem à Emmaüs, le jour de sa résurrection, ils sont incapables de le reconnaître. Et en passant par Moïse et tous les prophètes, il leur interpréta dans l'Écriture tout ce qu'il concernait. Avec cette clé, il fallait que le Messie souffrit pour entrer dans sa gloire. On n'est pas dans le Messie de Judas, Messie glorieux, on est plutôt dans un messianisme, si tant est qu'on puisse en parler ainsi, de Joseph, pas celui de Dan de l'obscurité, mais plutôt de Joseph, ce qui est vendu par ses frères, etc. Voilà. Il fallait que le Messie souffrit pour entrer dans sa gloire. Ici, si vous voulez, d'une certaine manière, c'est peut-être l'éclairage qu'on pourrait donner de Samson, mais vous voyez, je tire un peu par les cheveux, pour un nazir, c'est quand même pas mal, c'est que c'est un homme qui, alors même qu'il est au fond du trou, il est le prisonnier des Philistins et désormais aveugle, va en une seule fois, finalement, tuer plus de Philistins que toute sa vie. Alors c'est un acte de violence, c'est vrai, mais du point de vue du projet de Dieu qui est d'établir la royauté en Israël, on est en marche vers l'établissement de cette royauté, vous voyez. En passant par l'épreuve dramatique de tomber aux mains des Philistins, d'y perdre la vue et d'y perdre son crédit, hein, il est devenu une bête de foire hein, que l'on sort pour s'en moquer, eh bien, il va pourtant réussir, avec l'aide d'un petit garçon, à éliminer, non pas tant les Philistins, ou alors si on devait le dire de manière symbolique, je dirais, cette espèce de perversion spirituelle qui en vient à célébrer des dieux comme, on l'a dit, Dagan ou d'autres. Ça, c'est un élément. Un autre élément, il y a deux éléments, à mon avis, qui peuvent éventuellement être utilisés de Samson. Effectivement, il y a cette énigme, moi, qui m'a toujours impressionné, du fort est sorti le doux, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Voilà. La force et la douceur sont des caractéristiques qui sont soulignées dans le Nouveau Testament à propos de Jésus. Hein, Jean-Baptiste, d'emblée, va le présenter comme le plus fort. Voilà, celui dont je ne suis pas digne, même en me courbant, de délier la couronne de ses sandales. Le fort par excellence. Voilà. Et le doux, c'est une manière de le caractériser. Je suis doux et humble de cœur. Hein, venez à moi, vous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau. Et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, car mon joug est facile à porter. Voilà, hein, je suis doux et humble de cœur. Bleu. Et puis, je ne veux pas tirer trop de traits, mais du mangeur est sorti ce qui est mangé. La finale de l'évangile, c'est en définitive un repas, hein, où la nourriture est ici, et là le moyen d'une transmission. Hein, ce qui est, vous savez, l'autre manière de traduire le terme de livrer. La livraison, c'est pas simplement une trahison, c'est aussi, quand on vous livre un colis, c'est une transmission, c'est un apport, c'est un moyen de passer de génération en génération. Donc ça, c'est un élément. Il y a peut-être encore un dernier élément, et je m'arrête là pour le rapprochement avec le Nouveau Testament. Vous avez quand même un endroit où Jésus, dans une controverse assez vive avec les scribes venus de Jérusalem, utilise cette parabole, cette énigme. Nul ne peut prendre les biens d'un homme fort s'il ne l'a d'abord lié. Voilà. Et là, on est typiquement dans... c'est au chapitre 3 de Saint Marc. Nul ne peut prendre les biens d'un homme fort s'il ne l'a d'abord lié. Alors, un peu spontanément, dans les discussions qu'il oppose aux scribes, il est question de Satan, du pouvoir qu'a Jésus d'en imposer aux esprits impurs. Et donc, un peu spontanément, on identifie le fort avec Satan que Jésus vient lier. En réalité, le contexte plus large est celui du projet des siens, de sa famille, mère, frère et sœur, hein, de se saisir de Jésus. Voilà. Hein, et derrière ce vocabulaire, se saisir de Jésus, le lien de l'homme fort, il y a tout un vocabulaire qui serait utilisé par l'Évangile pour parler de Jésus au moment de la Passion. Voilà. Bon, c'était des petits points de rapprochement. Moi, ce que j'ai noté en lisant Samson, c'est ceci. La première chose qui m'a un peu surpris, c'est que le nom de Samson ne vient pas tout de suite. Hein, on a la formule « voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ». Habituellement, vous savez que ces deux verbes sont associés à un troisième. « Et tu lui donneras le nom ». Voilà, le nom fait partie habituellement de la révélation ou de l'annonce. Hein, vous trouvez ça à foison dans le livre de la Genèse. Hein, le verbe « ara », le verbe « yalad », le verbe « karachem hein, », donner le nom. Et là, il faut attendre la fin du chapitre 13 pour savoir qu'il s'appelle Samson sans que l'ange n'en dise rien. Et c'est un peu énigmatique. C'est la première énigme qui m'a... Pourquoi le nom ne fait pas partie? Alors que le nom, vous le savez, exprime en quelque sorte la mission qui va être la sienne. Voilà. La deuxième chose qui est un peu surprenante, c'est que l'ange dit quelque chose que Philippe a souligné à propos de Samson, c'est-à-dire sa mission. Il dit ceci... il le présente comme un nazir. C'est lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. Hein, on a entendu ça tout à l'heure. Hein, c'est au début du chapitre 13. Quand la femme, la future mère de Samson, rapporte ça à son mari, voici ce qu'elle dit. Elle va lui dire exactement ce que dit l'ange. Donc l'identité, si vous voulez, des propos invite à voir aussi les différences. Mais au lieu de rappeler que c'est lui qui va commencer à sauver Israël de la main des Philistins, il dit simplement ceci: l'enfant sera nazir de Dieu depuis le sein de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Alors c'est une formule, bien sûr, qu'on connaît, hein, depuis le sein de sa mère jusqu'au jour de sa mort, ça veut dire toute sa vie durant. Mais voilà qu'elle introduit un élément, vous voyez, qui est un peu comme une ombre portée sur le personnage, hein, qui est la question de la mort de Samson, passant comme, je dirais, dans l'ombre, hein, sa vocation de sauveur. Et Samson, c'est un peu un personnage, voyez, comment dire, entre deux, entre chien et loup. Vous utilisez ça, peut-être des obscurités, voilà. Philippe a utilisé tout à l'heure le terme d'obscurité. C'est quelqu'un qui est ambigu, pardon, si le terme gêne, mais il y a quelque chose chez lui de solaire, son nom le dit, il s'appelle Shimshon, le Shemesh, le soleil, ou alors serviteur, mais il y a quelque chose de lumineux chez lui. D'ailleurs, tout ce qui est au soleil est associé aussi le feu, donc, et dont il va se servir à plusieurs reprises pour brûler les moissons des Philistins. Pour le feu, par exemple, quand il fait claquer les liens par lesquels il a été attaché, comme des tiges de lin qui plus rapidement que des tiges de lin qui sont brûlées par le feu. Le feu est aussi présent, vous l'avez dit tout à l'heure, Philippe, quand les Philistins vont menacer la première femme de Samson de la brûler si jamais elle ne leur donne pas la solution de l'énigme. Mais finalement, ce qu'ils vont faire, hein, c'est-à-dire la brûler. C'est ce qu'on appelle en littérature un motif, voyez, qui est suffisamment répété pour, en quelque sorte, indiquer un point assez important de Samson. On a un peu l'impression, si vous voulez, que le feu est comme une espèce de correspondant de Samson. On dirait une expression métonymique, voilà, pour parler de lui. C'est-à-dire une puissance aveugle qui va tout détruire sur son passage et qui va se détruire lui-même. Voilà, c'est un peu le sens de Samson, hein. Un héros malheureux, malgré tout. Hein. Un héros malheureux, même si vous avez utilisé, je pense, le terme de donner sa vie. Est-ce qu'il y avait aussi un autre point que je voulais dire sur Samson? Non, je vous dis, l'homme de feu, un homme impulsif, un homme au cœur d'artichaut, oui, ça, on l'a vu. Je crois que je vous en ai dit suffisamment. Si vous avez maintenant des questions, je vous en prie.
Monsieur, alors.
Oui, j'ai une question et une observation sur le point. Alors, d'abord, excusez-moi, ignorant, mais quand j'écoute l'histoire de Samson, c'est un sauveur, finalement, qui n'a pas réussi, qui a échoué. Et je ne trouve pas ça dans le rapport avec le roi David, qui lui, au contraire, David et Goliath, qui lui était tout petit. Madame est tout petit face à Goliath et David a réussi. Alors, historiquement, je ne suis pas très bien.
David, c'est après David, hein.
C'est après, oui. Mais voilà, donc je voulais juste.